Kiosque Magazine.
Jeudi 11 juin 2015, couvert et venteux sur Montréal. Par contre, ça bouge en économie, n'est-ce pas, Éric?
Mais oui, ça bouge beaucoup et ça, on va en revenir un instant sur la mort de Jacques Parizeau. En dehors de la tristesse très largement partagée qu'elle provoque, est aussi une occasion de faire des bilans et des analyses sur des sujets qu'il a contribué à faire évoluer. C'est notamment le cas pour la finance et le choix de Stéphanie Gramont qui s'interroge sur l'évolution de l'emploi et même de l'implication de la population dans l'économie boursière. Ce sera mon premier sujet. Et je vous propose de continuer avec un truc très très curieux. On pourrait imaginer que les sujets d'études et de réflexion concernant l'économie du Québec soient confiés en priorité à des Québécois. Ça paraît tomber sous le sens.
Non, ils sont morts, ceux qui étaient compétents le dernier cette semaine d'ailleurs.
Ah non, mais on va trouver des successeurs. On pourrait encore davantage l'imaginer à propos de l'énergie, hein, sujet à bien des égards prioritaire. Eh bien, il semble que M. Couillat ait une vision différente des choses. Figurez-vous que la troisième et dernière table d'experts en vue de l'élaboration de la future politique énergétique réunira un panel composé essentiellement de tenants des énergies fossiles. Et parmi ces 11 experts choisis par le gouvernement, Couillard, pour alimenter la réflexion sur les hydrocarbures, combien deviennent de Québec? La moitié? Le tiers? Non, un seul.
Ah, hein? Qu'est-ce qu'il fait?
Étonnant.
Que fait-il?
Oui, que fait-il? S'il est malade, est-ce que la réunion continue? Alors, et pour finir, en ce qui me concerne, nous avons souvent commenté à ce micro les pièges et les excès de l'endettement. La dette est une tentation qui dissimule souvent ses conséquences. Et cela est vrai autant pour les États que pour les individus. Le péril s'accroît encore lorsqu'on ajoute les conséquences de son endettement personnel avec celui de l'État dont on dépend. La faiblesse des taux d'intérêt nous incite à emprunter. Plus c'est tentant, moins on examine les conséquences. C'est une vieille histoire qui rappelle une fois de plus ce bon vieux La Fontaine dont les fables sont souvent une bonne leçon d'économie.
Et pour ma part, je discute avec vous de BAP. On a vu cette semaine que le gouvernement avait enfin ordonné un BAP pour évaluer le projet Énergie-S. Mais s'agit-il vraiment d'une évaluation ou d'une espèce de blanc-seing, de caution morale qu'il recherche? C'est ce qu'on verra. On discute également, de productivité au Québec. Assez régulièrement, on entend le Conseil du patronat dénoncer la faible productivité des travailleurs québécois par rapport à son compétiteur américain ou ses compétiteurs étrangers. Eh bien, on va voir deux choses. La première, c'est que le prix du salariat compte pour bien peu dans les produits aujourd'hui. Et ensuite, que le capital est parfaitement mobile et donc que le salaire a très, très peu à voir avec la politique industrielle québécoise. Et finalement, on se penche sur une situation franco-française, c'est vrai, mais tout à fait applicable chez nous. Est-ce que nos grandes entreprises doivent craindre la révolution numérique ou en profiter? Alors, tout ceci pour vous dire qu'on vous parle d'économie et d'emploi. C'est notre mandat à Kiosque Magazine du jeudi. On se retrouve dans quelques secondes pour le début de cette émission. Ah, j'étais un peu surpris en lisant la presse, le texte que vous allez nous lire de Stéphanie Gramont qui s'intitule « Où s'en va la finance au Québec? » alors qu'on le sait très bien depuis 30 ans, la finance s'en va à Toronto. C'est bien connu.
Oui, excusez-moi, je ris, je ne devrais pas. Il existe un type de croissance économique directement lié à la finance. Hein. On en connaît les fièvres, les risques, les succès, entre guillemets, parce qu'ils sont fortement contestés quand on considère ses conséquences. Et puis le décalage avec ce qu'on appelle l'économie réelle. Alors, où est-ce qu'on en est chez nous sur cette question? Effectivement, ça a intéressé Stéphanie Gramont et je vous lis son article. C'est curieux comment le hasard fait parfois bien les choses. J'avais déjà choisi de vous parler de la place financière québécoise quand j'ai appris la mort de l'ancien Premier ministre Jacques Parizeau. Celui qui a participé à la mise en place d'outils financiers comme la Caisse de dépôt et placement.
Elle appelle ça un hasard qui fait bien les choses?
Non, ça
me saute dans l'oreille.
Ça, c'est votre extrapolation quand même. Bon, enfin, oui, on peut le lire comme ça, mais moi, je suis certain qu'elle a autant de sympathie pour Parizeau que vous, et que nous tous, bien entendu. Celui qui a initié le grand public québécois à la bourse et favorisé l'essor de Québec Inc. avec la création du régime d'épargne action, le fameux REA. Mais malgré ces avancées, l'industrie financière du Québec perd de son élan depuis 1987. Le nombre d'emplois en finance et en assurance a augmenté de 17% au Québec, un rythme de croissance largement inférieur à celui observé en Ontario, plus 61%. Peut-être pour ça que vous nous citiez tout à l'heure, Ottawa. Et malheureusement, les choses ont empiré depuis 5 ans. comme je l'ai constaté en consultant les résultats de l'enquête sur la population active de Statistique Canada. Depuis 2009, alors que les marchés financiers avançaient à pas de géant, le Québec a carrément perdu 10% de son effectif en finance et en assurance. Pouf, 18 000 emplois disparus. Pendant ce temps, l'Ontario a vu son effectif gonfler de 10%, avec la création de 35 000 postes. Pourquoi cet écart? Dois-je vous rappeler que le Québec est parmi les provinces les plus pauvres quant aux revenus disponibles par habitant? Or, l'argent attire l'argent. Si elles ont le choix, les sociétés financières iront s'installer ailleurs. Et puis, la consolidation de l'industrie s'est poursuivie, notamment en raison de l'alourdissement du fardeau réglementaire. Plusieurs firmes québécoises ont été avalées. Les survivantes ont besoin d'une masse critique beaucoup plus importante pour parvenir à concurrencer les grands acteurs mondiaux. Certains diront « Bah, tant pis pour les vilaines banques, mais notre économie ne peut pas se passer d'un secteur financier en santé ». Une étude publiée ce matin par l'Institut du Québec démontre justement l'importance de l'industrie des fonds communs pour le Québec. On a beau pester contre les frais de gestion trop élevés, il s'agit tout de même d'une industrie qui a le vent dans les voiles. Depuis 30 ans, les actifs gérés par l'industrie des fonds communs et des fonds négociés en bourse ont été multipliés par 10 au Canada, dépassant 1 000 milliards en 2013. Cet essor est dû à l'arrivée des baby boomers à la retraite et au déclin des régimes de retraite à prestations déterminées, lequel force les futurs retraités à épargner eux-mêmes pour leurs vieux jours. Le Québec suit la même tangente. Depuis 10 ans, l'actif sous gestion des fonds a grimpé de 9,3% par année pour atteindre 180 milliards d'actifs en 2013, presque autant que les actifs gérés par la Caisse de dépôt et placement, autour de 200 milliards en 2013. Conséquemment, la croissance économique générée par les fonds est beaucoup plus rapide que celle du reste de l'économie. En 2013, l'industrie des fonds a rapporté 861 millions à l'économie québécoise, comparativement à 519 millions en 2005. Il s'agit d'une croissance de 6,5% par année, presque 5 fois plus élevée que l'économie, 1,4%. En tenant compte des retombées plus larges, l'empreinte économique totale de l'industrie des fonds au Québec s'élève à 1,8 milliard par année. Cela veut dire plus d'impôts dans les coffres de la province et plus d'emplois. Au Québec, le nombre d'emplois liés au fonds a bondi de 59% depuis 10 ans pour atteindre 9 100 postes en 2013. Des emplois spécialisés et mieux rémunérés que la moyenne. En ajoutant les emplois indirects, comptables, avocats, on constate que l'industrie soutient plus de 18 000 emplois au Québec. C'est bien, mais ce pourrait être mieux. Même si les Québécois détiennent 17% des actifs investis dans les fonds au Canada, le Québec ne récolte que 13% des emplois directs de cette lucrative industrie. Le déficit dépend du fait que la grande majorité des maisons-mères des sociétés de fonds sont regroupées en Ontario. Avec 37% des actifs de l'industrie, les Ontariens récoltent 65% des emplois directs de l'industrie des fonds. 44 000 emplois, quelle manne ! Plusieurs sociétés de fonds, Made in Québec, sont disparues au fil des ans. Par exemple, Talvest a été happé par la banque CIBC. Plus récemment, le géant ontarien Manuvie a mis la main sur la filiale canadienne Standard Life, une des rares firmes étrangères qui avait établi une vaste équipe de gestionnaires de portefeuille à Montréal. Comme on pouvait s'y attendre, Manuvie vient d'intégrer la famille de fonds Standard Life, qui contenait 7 milliards de dollars à l'intérieur de Manuvie. La majorité des gestionnaires montréalais sont toujours en poste. Mais à terme, combien restera-t-il d'actifs gérés à Montréal ? Qu'adviendra-t-il des emplois ? Bien sûr, Manuvie a promis de maintenir et même d'augmenter son effectif à Montréal. La Caisse de dépôt a d'ailleurs investi 500 millions lors de la transaction pour encourager Manuvie à prendre racine au Québec. Mais seul le temps nous dira combien de postes de haut niveau resteront chez nous. Alors tout ça est un peu effrayant, parce que si je me réfère à l'article que vous allez nous lire tout à l'heure, François, il faut se méfier de l'arrivée du numérique, du digital, globalement, dans le tissu économique. Mais là, on y est dans le tissu digital, normalement, et on perd des emplois. C'est un peu embêtant, non?
Ceci étant, sur le marché des places financières mondiales, dans un classement paru récemment, Montréal est encore dans les 20 premières, loin derrière Toronto, toutefois, derrière Vancouver, qui est une place financière régionale sur la côte ouest. Mais au niveau des activités mondiales, Montréal se classe encore dans les 20 premières. Bon. Faut-il craindre la tendance actuelle, notamment du gouvernement fédéral qui veut concentrer les valeurs mobilières sur Toronto et vider les provinces de ce marché? Je pense que oui.
C'est pas qu'un problème informatique, alors.
Mmh. Sable bitumineux, on n'en avait pas parlé depuis un certain temps. J'ai plein de brefs. Je pourrais vous parler de sable bitumineux, là, mais pendant toute l'heure qui vient, je pense qu'on s'ennuierait pas. On serait peut-être indigné, on aurait peut-être de la difficulté à digérer nos petits déjeuners, entre autres choses. Mais les nouvelles sont abondantes. Et la dernière, la plus grande cette semaine, c'était une nouvelle à l'effet que, le gouvernement provincial a demandé une enquête au Bureau d'audience publique en environnement pour évaluer le projet. Et ce, sans qu'il ait jamais été déposé par la société qui promeut Énergie Est, le pipeline qui devait traverser le Québec et éventuellement construire un port à Cacouna. On s'en rappelle, que port dont les bélugas ont eu la peau. Bravo les bélugas. Donc, les mouvements environnementaux parfois s'interrogent parce que on peut se demander si le BAP, un peu comme le processus d'évaluation fédérale, je vous rappelle que le projet de pipeline est évalué par le gouvernement fédéral, par la Régie de l'énergie, à qui on a interdit comme étant absolument hors de propos de se pencher sur les émissions de gaz à effet de serre que pourrait provoquer le surcroît de production de sable bitumineux. C'est non pertinent. Vous pouvez vous pencher sur la profitabilité du projet, mais non pas sur la pollution que le projet pourrait causer. Donc, on a interdit ça au gouvernement fédéral, à la Régie de l'énergie. Eh bien, on va voir qu'au niveau provincial, on n'est pas vraiment mieux, puisque depuis que le premier ministre, avant qu'il ait été remplacé récemment, Albertin, passe à Québec et obtienne l'assurance qu'on ne se pencherait pas sur la question, on pensait qu'au Québec, on s'interrogerait, nous autres, sur le fait qu'en laissant passer sur notre territoire 1,1 million de barils par jour de pétrole de sable bitumineux, eh bien, on pourrait s'interroger sur le fait qu'on encourage la production massivement de gaz à effet de serre en Alberta qui finissent chez nous, ne nous le cachons pas. On va voir qu'il n'en est rien et que les groupes environnementaux sont très remontés contre le processus. Un texte d'Alexandre Shield, publié le 10 juin 2015, les groupes environnementaux dénoncent un BAP au rabais. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, ne pourra pas étudier le volet économique du pipeline Énergie Est. Il devra évacuer la question des gaz à effet de serre imputables au pétrole qui sera transporté. Quant au gouvernement, il n'exigera pas d'études d'impact de la part de TransCanada. Tout cela fait dire aux écologistes que le ministre David Hurtel a lancé un BAP au rabais. La lettre envoyée au BAP par le ministre de l'Environnement pour préciser le mandat indique en effet que celui-ci exclut formellement toute analyse du volet économique. Dans le cadre d'autres récents mandats, notamment sur le gaz de schiste, le BAP avait pourtant pu aborder cet aspect majeur de tout projet énergétique. Selon les règles fixées par le gouvernement Couillard, le ministère des Finances et celui de l'Énergie et des Ressources naturelles se chargeront du volet économique. On va vous dire si c'est payant, nous autres. C'est d'ailleurs ce ministère dirigé par Pierre Arcan qui présentera la position du Québec lors des audiences qui se tiendront à l'Office national de l'énergie. Le ministre Arcan a plaidé dès l'automne dernier en faveur des avantages économiques du projet de pipeline, le jugeant extrêmement positif pour le Québec au lendemain d'un souper organisé et payé par TransCanada, incidemment. Et le dessert devait être bon. La démarche mise de l'avant par le ministre Hurtel évacue par ailleurs la possibilité d'exiger que TransCanada réalise une étude d'impact à présenter à son ministère. Il a pourtant répété à plusieurs reprises que cette étape était, selon lui, essentielle pour coordonner les différents aspects de l'évaluation environnementale. Cette condition était même inscrite dans la lettre envoyée en novembre dernier à la direction de la pétrolière albertaine. Hurtel y exigeait le dépôt sans délai de l'étude d'impact sur la portion québécoise du projet. Celle-ci comprend un pipeline de 720 km qui traversera des dizaines de municipalités, des milieux naturels, des zones agricoles et plus de 600 cours d'eau. Dans le mandat lancé ce lundi, Québec stipule plutôt que les travaux du BAP devront tenir compte et intégrer les analyses évaluées dans le cadre des évaluations environnementales stratégiques lancées l'an dernier. Les comités qui dirigent ces EES sont présidés par des représentants du gouvernement. Ils n'ont pas jusqu'à présent mené d'audience publique. Sur la question des gaz à effet de serre, le gouvernement libéral adopte la même position que l'évaluation fédérale. Le cabinet du ministre Hurtel confirme donc que les émissions de la portion québécoise seront prises en compte, mais pas question d'inclure les gaz à effet de serre liés à l'exploitation du pétrole, des sables bitumineux ou encore à sa combustion. On se ferme les yeux, ça en est une honte. Québec entend aussi répondre à la volonté de TransCanada de lancer des travaux préliminaires dans les prochaines semaines. Un comité d'experts sera nommé d'ici quelques jours, notamment à partir de ceux choisis par le gouvernement pour les évaluations environnementales stratégiques pour approuver les exigences qui les baliseront. Selon ce que confirme le porte-parole de TransCanada, Tim Dubois, des levées sismiques et des forages seront réalisés dans des cours d'eau au cours de l'été, notamment pour la rivière Batiscan, le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Outaouais. Ils serviront à préciser la façon dont le pipeline les traversera. Dans une sortie publique commune diffusée au lendemain de l'annonce surprise de la tenue de BAP, cinq groupes environnementaux concluent que le mandat confié au BAP est édulcoré et comprend des failles importantes qui en affaibliront la portée. Ils dénoncent notamment la décision de Québec d'ouvrir la porte à des travaux cet été. Ils font valoir que ces travaux seront menés sans évaluation environnementale publique et avant que l'évaluation du projet en entier ne soit complétée. Le directeur général de Nature Québec, Christian Simard, critique en outre l'évacuation de l'enjeu climatique. Le Québec a critiqué l'inaction d'Ottawa en matière de lutte contre les changements à effet de serre, mais le gouvernement ferme les yeux sur les émissions de gaz à effet de serre d'un projet qui stimulera l'exploitation des sables bitumineux, fait-il valoir. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on se prépare à faire avancer le projet en disant « on a toutes les avancées du monde, on a toutes les autorisations, tous les comités qui se sont penchés sur le projet nous ont dit oui, mais tous les comités ne se sont pas fait poser une seule fois la question du « est-ce que ça va faire du bien à la planète ou lui nuire. » Et c'est vers ça qu'on se dirige. Amélie qui chantait Courage, un titre qui m'inquiète un peu. Est-ce que ça annonce des choix musicaux par le metteur en onde de cette émission, réalisateur, patron, finalement le pouvoir de cette émission, Rémi Hermoso, qui vont nous interroger dans les prochaines minutes? Enfin, voilà, je suis dans l'expectative et dans l'angoisse. Ceci dit, je reste aussi dans l'énergie puisque la fée pétrole, la fée gaz, elle attire l'attention de Québec. On le sait depuis qu'on discute de gisements pétroliers en Gaspésie, dans le fleuve Saint-Laurent, en Anticosti. On se demande est-ce qu'on va l'exploiter, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a les moyens. Alors, le bon truc, c'est d'aller chercher des avis. C'est ce que le gouvernement fait et il semblerait que les gens auprès de qui il prend avis, eh bien, c'est discutable.
Eh oui, alors on est effectivement dans une continuité de sujets, on est peut-être dans une continuité de questions aussi. Bon, vous l'évoquiez, il existe au Québec une commission chargée d'élaborer la future politique énergétique. C'est une bonne chose, hein, on est ravis qu'elle existe, cette commission. Mais figurez-vous qu'elle ne compte parmi ses 11 membres qu'un seul Québécois. Ah, tiens, surprise. Et quant au reste des experts, parce que ça c'est une chose qu'il n'y en ait qu'un, alors les 10 autres c'est qui? Ben, on peut peut-être se demander si les intérêts du Québec sont leur priorité. Hein. C'est possible de poser la question. C'est ce qu'a fait Alexandre Schill dans un article du Devoir, je vous lis. La troisième et dernière table d'experts en vue de l'élaboration de la future politique énergétique réunira un panel composé essentiellement de tenants des énergies fossiles. Et parmi ces 11 experts choisis par le gouvernement Couillard pour alimenter la réflexion sur les hydrocarbures, un seul provient du Québec. Oui, déjà pas mal qu'on n'ait qu'un Québécois. En plus, ce ne sont que des gens spécialisés dans le pétrole. On aurait bien aimé un type qui pouvait parler d'environnement.
Oui, mais il s'agit quand même de la
Non?
troisième table.
Ah oui, d'accord, oui. C'est pas grave alors. Oui, bon. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcan, vient de rendre publique la liste des participants à la table d'experts qui se tiendra le 15 juin à Québec. Celle-ci comprend des acteurs de l'industrie des énergies fossiles ou des gens qui ont travaillé de près avec cette industrie au cours de leur carrière. Alors, on va voir un peu qui c'est. On retrouve ainsi trois experts provenant de l'Alberta, dont la présidente de l'Association canadienne des pipelines, Brenda Kenny. Le gouvernement du Québec a aussi invité le directeur de l'économie, de l'information et de l'analyse de l'énergie du ministère de l'Énergie de l'Alberta, Matthew Force. Le président directeur général de l'Alberta Energy Regulator, Jim Ellis, sera présent. Cet organisme réglemente tout le développement énergétique de la province. Le panel compte aussi Jean-Louis Chilanski, président du Centre des hydrocarbures non conventionnels. Qu'est-ce que c'est que ça, des hydrocarbures non conventionnels?
Le gaz de schiste, le
Oui,
pétrole de
ah,
schiste.
je m'en doutais, oui. Mais je trouve que dans le non conventionnel, il y a tout un univers qui s'avance. Hein,
Non, mais en fait, c'est le mot schiste qu'on veut
ouais,
évacuer par cette
c'est ça, oui.
appellation.
Bah, on aurait bien besoin d'une convention, peut-être même d'une constituante. Bon, allez, ça c'est autre chose. Cet organisme français, formé au cours des derniers mois, milite en faveur du pétrole et du gaz de schiste. Monsieur Chilanski, honte sur moi, a d'ailleurs déjà décrit ses ressources comme étant à l'origine de... C'est moi qui ai ajouté honte sur moi, c'est pas Monsieur Chilanski. Une véritable révolution énergétique. Le CHNC a notamment réussi à rallier le géant pétrolier Total. Un autre expert français prendra part aux discussions. Il s'agit d'Yves Mathieu, chef géologue à la retraite de l'Institut français du pétrole. Le directeur du volet Amérique de la division géotechnique des grands projets de l'entreprise Fugro Geo Consulting, Dan McConnell, sera lui aussi présent. Cette société texane se spécialise dans l'exploration et l'exploitation d'énergies fossiles en milieu marin, notamment pour les forages et les pipelines. La liste des invités inclut David Knapp, économiste en chef de la firme américaine Energy Intelligence Group. Cette entreprise est spécialisée dans l'analyse internationale du secteur énergétique et plus particulièrement du pétrole et du gaz naturel. On compte par ailleurs un avocat américain, Dave Neslin, qui se spécialise dans la réglementation de la fracturation hydraulique. Le gouvernement a également invité un chercheur de l'Université nationale de Singapour, Philip Andrew Speed, qui a fait carrière dans l'exploration pétrolière, ainsi que Eric Rønheim, un représentant norvégien d'Intertanko, une association indépendante des propriétaires de pétroliers et cargos. Ah, ça doit être un club très fermé, ça. Doit fumer le cigare là-dedans. Un seul expert provient du Québec. Il s'agit de Stéphanie Trudeau, vice-présidente stratégie, communication et développement durable chez Gaz Métro. C'est bien, on a introduit le mot développement durable. Il semble tout petit là, hein, comme dans un étau. Interpellé sur la composition de cette table d'experts, il y a quand même des voix qui se lèvent pour s'étonner, le ministre Arcan s'est dit confiant. Non, on sait ce que c'est qu'un homme politique qui se dit confiant, c'est toujours extraordinaire. Ça veut juste dire j'ai décidé, fermez-la, c'est tout. Dans le fait d'obtenir un portrait complet concernant la filière des hydrocarbures à partir des discussions du 15 juin. Les experts, selon leur champ d'expertise, présenteront leur vision des défis à relever pour développer la filière des hydrocarbures, ainsi que le fruit de leur réflexion sur l'exploration, l'exploitation, le transport et la distribution du pétrole et du gaz naturel au Québec. Ces présentations alimenteront les discussions qui s'ensuivront avec les partenaires invités afin de dégager des orientations à mettre de l'avant dans la prochaine politique énergétique, a expliqué son cabinet par voie de courriel. L'ingénieur en géologie Marc Durand estime au contraire que cette table d'experts n'a aucune crédibilité. Le gouvernement a clairement choisi des gens qui militent en faveur de l'industrie pétrolière et gazière. Il cherche visiblement une approbation et il va la chercher auprès des gens qui ne connaissent pas le contexte local. Et c'est vrai que c'est un peu gros. Monsieur Durand se questionne ailleurs sur la pertinence des choix des experts en soulignant que 10 des 11 proviennent de l'extérieur du Québec. Il ne serait donc pas au fait des controverses soulevées par chacun des projets en développement. D'après ce que je constate, ces gens n'ont aucune expertise sur le Québec. Ils ne connaissent pas les cas d'Anticosti, du Golfe ou de la vallée du Saint-Laurent, déplore l'ingénieur en géologie. Responsable de la campagne climat de Greenpeace, Patrick Bonin juge même que le choix des experts démontre que le gouvernement Couillard souhaite enfoncer davantage le Québec dans le pétrole. Cette table est largement dominée par des experts pro-pétrole et gaz. C'est un signal inquiétant en vue de la future politique énergétique du Québec. Selon ce que fait valoir M. Durand, le ministère aurait pourtant sollicité des avis en vue de la formation de cette table d'experts au cours des derniers mois. Mais à son avis, aucun expert critique des hydrocarbures n'aurait été retenu. Comme ce fut le cas pour les deux tables d'experts tenues plus tôt cette année, cette journée consacrée aux hydrocarbures sera suivie en soirée d'une consultation publique. Lors de cette séance de consultation, les citoyens et les organismes pourront intervenir au micro durant une période limitée afin de permettre à un plus grand nombre de participer, a précisé le bureau de M. Arcan. Lors des deux tables précédentes, le temps de parole avait été fixé au préalable à 5 minutes. La planète appréciera. Les personnes qui souhaitent assister à la table d'experts ou participer aux discussions lors de la séance de consultation publique qui suivra en soirée doivent s'inscrire au préalable en ligne. Il convient de mentionner que les places sont limitées, précise toutefois le ministère sur son site. La politique énergétique 2016-2025 doit normalement être prête pour l'automne 2015. Le gouvernement Couillard compte aussi inclure des démarches complémentaires au processus, dont l'évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures et celle sur Anticosti. Voilà encore une occasion de nous inquiéter, mon cher François, et vous nous en donniez une tout à l'heure. Mm-hmm. C'est quand même terrible. À chaque fois qu'on sort le sujet des journaux, c'est pour redire cette inquiétude.
Le pétrole est effectivement une fée qui, semble-t-il, est impossible à repousser.
Écoutez Kiosque Magazine.
Je vous parle, et c'est pas fréquent que je fais ça, mais je vais vous parler du patronat français. Pourquoi je vous parle du patronat français? Parce que j'ai lu un texte dans Les Échos, ça fait bien, ça se place bien à table. Oui, j'ai lu Les Échos cette semaine, qui est un magazine d'affaires français qui évidemment discute des doutes et angoisses des entreprises et patrons français. Parce que Les Échos nous disaient que la principale crainte des patrons français, ça n'est pas, je ne sais pas moi, l'avènement d'un gouvernement socialiste fort, ça, c'est pas encore fait, ça, ou alors une grève générale. Non, la principale crainte des patrons français actuellement, c'est d'être ubérisé. On va voir de quoi il retourne dans ce texte de Sandrine Cassini, intitulé « La vieille économie confrontée au raz-de-marée numérique ». Tous les secteurs de l'industrie et des services craignent désormais d'être ubérisés par les géants de la Silicon Valley. Accor, Total, la Société Générale ou Air Liquide, il n'y a pas de grands groupes aujourd'hui qui ne craignent de se faire ubériser. Le barbarisme inventé par le PDG de Publicis, Maurice Lévy, désigne ce phénomène qui voit une entreprise traditionnelle remise en cause par de nouveaux venus, souvent issus de la Silicon Valley. Après la musique, le tourisme et le commerce, ce sont les énergéticiens, les assureurs, les banques, les gestionnaires d'eau ou les fabricants de pneus qui s'apprêtent à entrer, qu'ils le veuillent ou non, dans la grande lessiveuse numérique. Une accélération qui s'explique par la généralisation du smartphone, qui a mis Internet et la géolocalisation dans toutes les poches. Pour aider les entreprises à négocier ce virage délicat, Le MEDEF, c'est une espèce d'université organisée par le patronat français, donne ce mercredi le coup d'envoi des universités du numérique avec un objectif évangéliser, comme le précise son vice-président Geoffroy Roux de Bézieux. Pour l'organisation patronale, l'enjeu est crucial. Une étude d'Oxford publiée en 2013 prévoit la disparition d'un emploi sur deux. Sans donner de chiffres précis, certains, à l'image de l'économiste Daniel Cohen, pensent déjà que le solde entre création et destruction de postes n'est pas positif. Comment des startups ou des géants du net peuvent-ils faire vaciller des colosses de l'électricité ou de la distribution? Les nouveaux entrants arrivent par l'aval, c'est-à-dire par le client, où la barrière à l'entrée est faible et où il y a peu d'innovation, explique Nicolas Collin, cofondateur de The Family, une société d'investissement dans les startups. Qu'est-ce que c'est français comme nom quand même? Les entreprises du numérique inventent une nouvelle expérience client qui fait rapidement boule de neige. C'est le fameux effet réseau. Parmi les victimes, les libraires, les agents de voyage, les concessionnaires. Pour les nouveaux venus, en revanche, le cercle vertueux s'installe. Plus il y a de clients, meilleur est le service. Le numérique fait alors basculer les entreprises dans l'hyperconcentration. Les gros grossissent, les moyens et les faibles sont éliminés. « Winner takes all », selon l'expression consacrée. On quitte le monde des rendements décroissants pour entrer dans celui des rendements croissants. Les clients attirent toujours plus de clients. C'est une anomalie de l'histoire industrielle, résume Nicolas Collin. Dans ce nouveau monde, la valeur économique se redistribue différemment pour se concentrer sur le client final, d'où la crainte des grandes entreprises comme la SNCF, EDF ou Accor de voir des Google, Amazon ou Airbnb tisser des liens directs avec les consommateurs et être même ravalés au rang de simples fournisseurs, contraints d'écraser leurs marges. D'autant que certains géants commencent à remonter dans la chaîne de valeur. À l'image de Tesla qui veut installer des batteries dans les appartements menaçant directement EDF. Vous irez sur le réseau électrique uniquement quand vous en aurez besoin, prédit Ambroise Huret, associé chez Eleven, un cabinet spécialisé dans le conseil en stratégie numérique. Encore là, une entreprise française qui s'appelle Eleven, on l'aura noté. Le numérique qui s'immisce dans tous les maillons de la chaîne, en particulier les ressources humaines. Sur Glassdoor, les salariés communiquent anonymement leur salaire et donnent leur avis sur la hiérarchie. Cela crée une pression en interne, dit Maurice Struder, lui aussi chez Eleven. Consciente de la révolution en cours, les entreprises traditionnelles tentent de se préparer, quitte à remettre en question des modèles économiques qui font encore leur richesse. Pas facile, néanmoins, d'être schizophrène. Le poids de l'histoire explique en partie leur retard. Aux États-Unis, 63 des 100 premières entreprises ont moins de 30 ans. En France, nous n'en avons qu'une, Gemalto, rappelle Philippe Lemoine, auteur d'un rapport sur la transformation numérique. Voilà, et c'est vrai chez nous aussi. Bon, on se rappelle que Uber brise l'industrie du taxi, qu'Amazon casse l'industrie du livre. Est-ce que c'est l'avenir de toute l'industrie partout dans le monde d'être soumis à la dernière mode numérique? Ça, c'est un sujet ponctuel, disons-le franchement. L'endettement record, la bulle financière. Je rappelle aux auditeurs que l'endettement des ménages particulièrement, c'est la principale inquiétude du gouvernement fédéral puisque les ménages canadiens sont tellement endettés qu'il ne peut pas remonter facilement ses taux d'intérêt s'il en éprouvait le désir ou le souhait. Qu'en est-il quand on confond tout ça avec une bulle financière?
Oui, mais c'est le problème de la perversion. C'est qu'on mélange les causes, les effets et puis le désir. Et tout ça, ça donne une bouillie qui parfois finit par un très grave mal de tête. Autrement dit, pour le dire moins poétiquement, quel risque prend-on en s'endettant? Alors, le risque, il vous paraît moins grave quand l'argent arrive sur votre compte. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et ben là, les individus, c'est comme les États, c'est pareil. Ils sont pas très bons dans les prévisions, ils sont obsédés par le court terme et puis effrayés par les conséquences quand elles arrivent. Alors ça a intéressé Gérard Bérubé dans un article du Devoir qui l'intitulait assez drôlement « Endettement record et bulle financière, drôle de mélange ». On fait pas dans les sujets joyeux aujourd'hui, hein, mais bon, c'est ça le réel malheureusement. La faiblesse persistante des taux d'intérêt sert de justification principale à l'endettement toujours record. On utilise cette même référence pour expliquer l'augmentation des cours immobiliers et la surchauffe des marchés financiers, bourse en tête. Cette double bulle, alimentée par une inflation s'emparant tant de l'actif que du passif des ménages, crée un environnement plutôt instable face à une remontée attendue du loyer de l'argent. Selon les données de l'économiste Laura Cooper de la Banque Royale, l'endettement des Canadiens totalisait 1 820 milliards à la fin d'avril, en hausse de 4,6% sur un an. Vous aviez raison, François, de signaler qu'il y avait de quoi s'inquiéter. Sur l'horizon, la dette à la consommation a progressé de 3%, attribuable à l'accumulation des soldes impayés sur les cartes de crédit et un recours accru aux marges de crédit. Pour sa part, le crédit hypothécaire progressait au taux de 5,3%, et ce, pour un troisième mois consécutif. L'économiste n'est pas sans rappeler que la faiblesse persistante des taux d'intérêt permet aux ménages d'absorber ce que l'on appelle le service de la dette. Le service, c'est le paiement de la dette, c'est le paiement des intérêts de la dette. C'est pas le paiement de la dette, mais celui de ses intérêts, attention. Tout en faisant ressortir que le poids des paiements d'intérêts sur le revenu disponible a atteint un niveau record. Ça, c'est toute la fragilité de l'endettement. C'est ce à quoi on assiste en général dans les États. C'est-à-dire que quand on commence à réduire les emprunts pour payer les intérêts qu'on doit, on a l'impression de faire des économies alors qu'en fait, on continue à s'endetter de façon catastrophique. En mars, Statistique Canada annonçait que la dette des ménages atteignait 163,3% du revenu disponible à la fin 2014. La progression était de 7,7% sur un an, propulsée par une demande accrue de cartes de crédit. L'agence Equifax Canada reconnaît alors que du total, près de 1529 milliards à la fin de 2014, soit 65%, étaient accaparés par les prêts hypothécaires. En les excluant, la dette moyenne des Canadiens a progressé de 2,9% pour atteindre 20 967 dollars. La dette moyenne. C'est beaucoup quand même.
Hein. Ouais, il faut dire ici qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le fait de dénoncer cette hausse de la dette moyenne puisque la Banque du Canada s'est fiée à la consommation interne pour relancer l'économie puisque le gouvernement se refusait à investir dans l'économie. On était dans des mesures d'austérité, d'équilibre budgétaire. Le résultat, c'est que ça nous donne ce genre de déficit-là.
Vous savez, ça me fait penser à ce qu'on pourrait appeler de l'hyper-keynésisme. Hein? Et ce n'est pas forcément une bonne chose. L'encours des prêts demeure toutefois de qualité, ajoutait l'agence. Elle observait que malgré les préoccupations croissantes sur la dette à la consommation, le taux national des défaillances à 90 jours ou plus dans toutes les régions et les grandes villes est resté le même, voire abaissé dans la plupart des cas. Le taux de défaillance se situait à 1,0. C'est stupéfiant parce que si vous calculez à partir du taux de défaillance, c'est, je ne sais pas moi, c'est à peu près comme si vous calculiez quand vous menez une bataille la victoire non pas au fait que vous gagnez des maîtres, mais au fait que le nombre des morts est à peu près équivalent. Donc on est en train d'y aller joyeusement. Enfin, tout ça est un petit peu bizarre. D'accord, le taux de défaillance se situait à 1,09, c'était le niveau le plus faible d'avant la crise de 2008-2009. Il avait monté à 1,6% au plus fort de la Grande Récession. En revanche, le taux de faillite, engagé dans une tendance baissière depuis 2009, affichait une hausse de 2,1% entre les derniers trimestres de 2013 et de 2014. Et vous voyez, ça, c'est intéressant de faire un parallèle entre le taux de faillite et le taux d'endettement, parce qu'on pourrait imaginer que l'un vienne compenser l'autre, ça serait de la bonne gouvernance, ça, ben, ça personne n'y pense. Bon. L'économiste en chef de la Banque de Montréal, Douglas Porter, plaçait le tout dans sa perspective conjoncturelle, devenue quasi structurelle au fil des ans. Une partie de cela n'est que le fruit naturel d'une longue période de taux d'intérêt exceptionnellement faible. Chaque fois que le ratio dette-revenu disponible est abordé, on s'empresse d'ajouter que sa valeur est surtout macroéconomique. Qu'il omet la composante de l'actif. Le ratio de la dette au revenu n'est pas notre mesure préférée pour examiner la situation financière des ménages canadiens, notamment parce qu'il ne tient compte que d'un des aspects du bilan des ménages, a commenté Laura Cooper dans une note à ses clients. Le ratio de la dette au revenu écarte effectivement la valeur nette des ménages. Celle-ci a progressé de 0,9 au quatrième trimestre pour s'établir à 233 000 dollars par habitant au quatrième trimestre, pouvait-on lire dans un texte de la presse canadienne. Il s'agissait tout de même du plus faible taux de croissance de la valeur nette en 6 trimestres. Douglas Porter indiquait alors que la faiblesse des taux d'intérêt a rendu les emprunts plus abordables et que cela aussi a fait grimper la valeur des habitations et les cours des actions, contribuant à la croissance de l'actif. Ce qui nous amène au double impact de la longue période de maintien des taux d'intérêt à des bas historiques depuis 2008 et à la sensibilité ou à la vulnérabilité pardon, de cet actif et de ce passif gonflé à toute hausse des taux d'intérêt. Dans le même temps, les capitalisations boursières mondiales ont doublé, voire triplé. Les taux sur les marchés obligataires restent extrêmement bas, quasiment administrés par les banques centrales. Les actifs les plus risqués sont recherchés en raison de leur rendement relatif. Cette euphorie des marchés donne le vertige. Ben, c'est gentil de dire euphorie. Moi, je ne l'analyse pas comme ça. C'est simplement qu'il y a beaucoup trop de liquidités sur les marchés, qu'on ne sait plus quoi en faire et que tout ça, c'est la constitution d'une bulle qui s'amène.
Et un jour, effectivement, les taux d'intérêt vont devoir remonter, ne serait-ce que parce qu'on doit financer vos retraites ou qu'on doit assurer des rendements. Va devoir remonter.
Cette remontée des taux ressemblera à une aiguille qui viendra percer ce ballon et on en subira les conséquences. Alors, d'ailleurs, c'est ce que l'économiste français Jean-Michel Nolot écrit dans Le Monde. La surchauffe immobilière menace un peu partout et l'assouplissement monétaire exceptionnel des banques centrales se poursuit au bénéfice des marchés financiers, au prix d'une vulnérabilité, j'arrive pas à le dire, accrue de quoi ? Ben, du bilan des ménages. Et encore une fois, bonjour les banques, adieu les ménages, c'est vraiment pas équitable. Au début de mai, dans son analyse de l'évolution des prix des logements, la Société canadienne d'hypothèques et de logements parlait d'une modeste surévaluation à l'échelle canadienne. Par segment, cependant, dans les régions métropolitaines de recensement de Toronto, Montréal et Québec, certains risques continuent d'être plus élevés qu'à l'échelle nationale, mais ils demeurent tout de même modérés. La SCHL faisant ressortir le risque de construction excessive à Toronto et à Montréal. Dans ces deux RMR, où il y a probablement 20 vendeurs pour un acheteur, le nombre de copropriétés en construction se rapproche des sommets historiques. C'est vrai, si vous le baladez en ce moment dans le centre-ville et que vous regardez le nombre de condos à vendre, vous demandez où est-ce qu'il y a assez de monde pour acheter tout ça et pour y habiter. Étonnamment, le risque était jugé faible dans les RMR de Calgary et d'Edmonton, pourtant aux prises avec la chute des cours pétroliers. Et dans celle de Vancouver, marché en surchauffe par excellence. Voilà encore une fois la démonstration de ce que la rationalité et l'économie ne sont pas forcément des sœurs jumelles. Et aussi de la façon un petit peu bizarre où en compartimentant les données, on arrive à des résultats qui sont totalement illusoires.
Imaginons le scénario du pire, une hausse des taux d'intérêt qui ramènerait l'intérêt aux alentours de 20%, ce qu'on avait connu au début des années 80. Ouais. Avec 160% de votre revenu annuel en endettement, ça veut dire que plus de 30 cents par dollar gagné irait à payer des intérêts. C'est ça que ça veut dire, l'endettement actuel. Bon, c'est le scénario du pire. Il est très peu probable qu'on remonte à un niveau pareil avant un sacré bout de temps. Mais ça fait réfléchir.
That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do. That's alright. That's alright. That's alright now, mama. Any way you do. Mama, she done told me. Papa done told me too. That's alright now, mama.
That's All Right, que moi j'ai connu sous la voix d'Elvis Presley. Voilà, alors c'était pas Elvis Presley. Et ceci dit, on ne sait pas qui chantait actuellement, semble-t-il. J'ai demandé à Rémi Hermoso de m'informer. Il le sait pas. Voilà, d'où je conclue que Rémi fait passer de la musique qu'il sait pas qui chante. Voilà, donc c'est assez angoissant. Hein? Voilà, je l'ai dit. Parlons maintenant de productivité des travailleurs québécois, puisque Le Devoir, plus particulièrement Éric Desrosiers, consacrait un texte au sujet là, aujourd'hui même, en fait, dans les pages du Devoir. On va démonter quelques mythes ici, mais quand même s'inquiéter, puisque c'est le thème d'une émission en économie. Il faut angoisser les gens, il faut qu'on soit anxiogène, c'est comme ça. Donc, le Québec doit se méfier des puissances industrielles émergentes. Le Québec reste encore bien positionné pour tirer avantage de la nouvelle économie mondiale, mais doit faire vite avant d'être rattrapé par les économies émergentes. Le secteur manufacturier québécois affiche globalement une meilleure productivité que celle de plusieurs pays développés, comme le Danemark, l'Australie et la Suède, mais surtout bien meilleure que celle des puissances industrielles émergentes, comme la Chine, le Mexique ou l'Inde, constate l'édition 2015 de l'ouvrage collectif d'experts « L'économie du Québec, contexte et enjeux » dévoilé mercredi en marge de la 21e édition de la Conférence de Montréal. Calculée à partir de la valeur ajoutée par employé, cette productivité est tellement supérieure qu'elle compense plus que largement l'avantage concurrentiel que confère aux économies émergentes l'extrême faiblesse de leurs salaires. Et ça, c'est un mythe, voyez-vous, qu'on démonte facilement. On s'imagine que parce qu'un Chinois, un Indien ou un travailleur du Bangladesh travaille pour presque rien, on n'a aucune chance. Eh bien non, c'est pas vrai. Cette avance du Québec est toutefois en train de fondre à mesure que les économies émergentes améliorent leur productivité en même temps que stagne et même recule celle de certains secteurs québécois, lit-on dans l'ouvrage co-dirigé par Thierry Varine, Bernard Sinclair-Desgagnés et Harry Van Asch. Au rythme où vont les choses, la Chine aura fini de rattraper le Québec dans 5 ou 10 ans, peut-être plus tôt même. L'importance de l'enjeu est considérable à une époque où la production est de plus en plus structurée en fonction de grandes chaînes de valeur mondiales dans laquelle chaque entreprise cherche à se faire une place, font valoir les experts qui annonçaient aussi la création dans Internet d'une nouvelle banque de données comparative appelée Mondo et visant à aider les entreprises avec ces enjeux. Nous assistons à un changement de paradigme. Le Québec reste bien placé, mais il n'y a pas de temps à perdre, a déclaré au journaliste Thierry Varenne, le professeur à HEC Montréal et membre du Cyrano, donne notamment en exemple l'Australie, qui a su améliorer rapidement sa position concurrentielle en investissant massivement dans le développement de ses infrastructures de communication numérique. Plus tôt dans la journée, l'expert en robotique de l'École de technologie supérieure, Ilian Bonnev, avait souligné un paradoxe dans son domaine. Le Québec, comme le reste du Canada, est l'une des économies développées où les entreprises utilisent le moins de robots. Nous comptons pourtant de nombreux experts et d'entreprises dans le domaine, mais ils doivent trouver leurs clients ailleurs. Je le dis tout de suite, les robots au Canada travaillent à la Chambre des communes. Le temps où la meilleure façon d'attirer les compagnies manufacturières était de leur garantir les salaires les plus bas est révolu, avait annoncé lundi à la conférence de Montréal, le grand patron de GE, Jeffrey Immelt. Il faut aujourd'hui moins de 2 heures de travail pour fabriquer un réfrigérateur. C'est intéressant comme statistique, ça. Dans un frigo que vous achetez, il y a moins de 2 heures de travail. Alors, on ne s'étonnera pas qu'on puisse le fabriquer n'importe où. Donc, moins de 2 heures de travail pour fabriquer un réfrigérateur et le coût de la main-d'œuvre pour une turbine de centrale électrique ne dépasse pas 20 %. On peut aussi s'installer presque n'importe où dans le monde. Ce qui compte maintenant, a-t-il expliqué, c'est la capacité de produire et de s'adapter vite et bien.
Oubliez tout ce que vous pensiez savoir du secteur manufacturier parce qu'il est en voie de complètement se transformer. Les grandes usines, avec plusieurs milliers d'employés, sont en train d'être remplacées par de plus petites unités de production, de 5 à 600 personnes, qui baignent dans une technologie numérique et la robotique, ce qui leur permet d'être en constante interaction avec les autres intervenants de la chaîne de valeur. Notre compagnie achète chaque année pour 50 milliards de biens et services à des fournisseurs. Cette nouvelle ère a commencé à ramener dans les pays développés des emplois qui avaient été délocalisés dans les économies émergentes, a affirmé Jeffrey Melt. Les pays peuvent aider ce retour en ayant une main-d'œuvre formée, une expertise dans les domaines scientifiques, mais aussi de l'énergie à bon prix. Le président du conseil et chef de la direction d'un autre géant industriel américain, David Cote de Honeywell, est venu quelque peu doucher mercredi les espoirs de ceux qui se seraient mis à rêver d'une grande revanche des puissances occidentales. La Chine sera aux États-Unis ce que les États-Unis ont été au Royaume-Uni au 19e siècle, a-t-il déclaré, rappelant cet autre moment de l'histoire où la jeune économie américaine avait commencé à détrôner la puissance britannique. Et quand je décide d'investir, donc, je peux aller n'importe où sur Terre. Ça fait réfléchir, ça pose des questions d'enjeux, bien sûr, mais aussi des questions de politique. Dans un monde mondialisé, la production peut se déplacer, mais rigoureusement n'importe où, n'importe quand. Ceci dit, si la valeur du travail qu'on met dans un produit n'est plus l'ingrédient essentiel de ce produit-là, on va commencer à considérer un peu plus le coût de transport, par exemple, à vouloir se rapprocher des marchés. Alors, le prochain grand critère d'investissement international ne va pas être où je peux produire en payant le moins cher mon salarié, mais où je puis produire de manière à pouvoir livrer ma marchandise le moins cher possible ou la fabriquer avec des ressources naturelles les plus disponibles possibles. Alors, penser l'industrie autrement, c'est à ça que nous appelle ce texte.
Alors, quelques brèves pour terminer, puisqu'on a tellement été pessimiste, enfin pas pessimiste, mais réaliste là durant cette émission. Je voudrais quand même vous dire que le taux de chômage au Canada est stable. Eh bien, il s'est maintenu à 6,8% en mai et c'est le quatrième mois consécutif. Hein, ça contrebalance bien 59 000 emplois créés pendant le mois. C'est pas une si mauvaise nouvelle.
Oui, une nouvelle qui pose de bonnes questions. On annonçait à cette émission, pas en primeur bien entendu, mais on annonçait qu'une société chinoise allait venir fabriquer à Saint-Bruno ses systèmes d'alarme pour le marché chinois, ce qui étonnait beaucoup parce que usuellement ils fabriquent chez eux ce qu'ils utilisent chez eux, les Chinois. Eh bien, sachez que cette belle usine, le terrain avait été choisi, les plans avaient été dressés, ne sera pas construite, pas parce que les Chinois ont changé d'idée, mais parce que le gouvernement fédéral s'y oppose. Et pourquoi s'y oppose-t-il? Parce que cette usine aurait été située à moins de 1,7 km de l'Agence spatiale canadienne et on estimait que ça posait un risque de sécurité. Alors, il faut trouver un nouveau terrain un peu plus éloigné pour cette usine-là. Alors, la musique de James Bond ici eût été tout à fait pertinente.
Une grande surprise qu'on a quand on arrive d'Europe, c'est l'écart entre les salaires dans la fonction publique et puis le secteur privé. Et je dois dire qu'en me penchant un peu sur les chiffres qui sont sortis récemment, je suis encore plus étonné. Figurez-vous qu'au Nouveau-Brunswick, elle est de 19% en faveur du secteur privé.
Dans les, municipalités.
Oui. Mais alors, l'écart du Québec, là, c'est stupéfiant. C'est 22,9%. Et c'est un record. C'est quand même extraordinaire. Mmh,
en considérant tous les avantages sociaux et le nombre d'heures travaillées. S'il n'y a qu'une chose que vous devez surveiller au cours de la prochaine semaine en matière d'économie, c'est l'ouverture du Salon du Bourget. qui est la grande foire aérienne qui se tient en France en tous les deux ans. Je vous rappelle qu'en alternance, c'est Farnborough en Angleterre et l'année suivante, c'est Le Bourget en France. Pourquoi ces capitales? Eh bien, parce que Bombardier y posera deux exemplaires de la C-série, le 300 et le 100, respectivement de 160 et 100 passagers. On s'attend à ce que Bombardier fasse des annonces sur ses tests en vol qui soient supérieurs à la prévision de moins de 20 % d'économie de carburant. Ça pourrait être très impressionnant et dans tous les cas de figure, c'est capital pour les ventes de la société. Vous l'entendez, c'est l'indicatif qui vous signale que cette émission tire déjà à sa fin. Alors, François Brodeur avec vous depuis une heure. Éric, je vous remercie d'avoir été là également. Rémi aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.